Bonsoir. Dans un rapport d'enquête pour la gestion de la province orientale, le groupe d'intellectuels de la Grande Orientale a exprimé le profond mécontentement des Tchopolais. Ce document, remis le lundi 6 octobre au président de l'Assemblée provinciale, souligne que les habitants de la Tchopo ne se retrouvent pas dans la gestion actuelle du gouvernement provincial. En matière de gouvernance, par exemple, ce rapport révèle que 99% de la population considère que le gouvernement provincial est inactif. Les seules réalisations visibles sont celles financées par le gouvernement central. Les habitants de cette région du pays fustigent également plusieurs problèmes majeurs comme l'insécurité grandissante dans la ville de Kisangani et les conflits fonciers coutumiers qui exacerbent l'insécurité dans certains territoires de la Tchopo. Enfin, la population de la Tchopo dénonce dans ce rapport le non-respect des droits de l'homme, notamment la liberté d'association et la liberté d'expression. Quelle lecture faire de ce rapport? Nous en parlons dans cette émission avec Trésor Grison Kiakoumbi, il est professeur et coordonnateur du groupe d'intellectuels de la Grande Orientale. Professeur Kiakoumbi, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Aussi avec nous dans ce débat, c'est Nold Tandia Akomboyo, ministre provincial en charge du budget et porte-parole du gouvernement provincial. Monsieur Akomboyo, bonsoir. Monsieur Akomboyo, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, on a des petits soucis avec sa ligne téléphonique. La réalisation va essayer de le rappeler. Et avec moi dans ce studio, Polydor Tanguely, expert en matière de travail, analyste indépendant. Bonsoir, Polydor.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sous la 94.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokepi.net ou via TV Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte X de Radio Kepi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokepi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la population de la Tchopo exprime ses inquiétudes quant à la gouvernance provinciale. Selon un rapport du groupe d'intellectuels de la province de la Grande Orientale, remis lundi au président de l'Assemblée provinciale, la population de cette entité dit n'est pas trouvé son compte par rapport aux promesses des campagnes du gouverneur auprès des députés provinciaux. Cette enquête a été menée entre janvier et mars 2025. Les grandes lignes de ce rapport avec vous, chacun concolé.
Le professeur Trésor Grison Kiakoumbi précise que diverses méthodes ont été utilisées pour recueillir les données de cette enquête. Celle-ci a pour objectif de contribuer au développement de la province de la Tchopo. Le rapport issu de cette démarche s'articule sur trois axes, à savoir la gouvernance, les infrastructures et l'évaluation du leadership provincial. Par rapport à la gouvernance, le rapport révèle que 99% de la population pense que le gouvernement ne fait rien. Les seules réalisations visibles sont celles financées par les gouvernements centrales. Il fustige également l'insécurité grandissante dans la ville de Kisangani, ainsi que les conflits fonciers et coutumiers dans certains territoires. Par rapport aux droits de l'homme, le rapport demande aux autorités provinciales de respecter les droits humains. C'est dans ce cadre que les intellectuels de la Tchopo exigent sans délai la libération de Djedidia Mabela, cet activiste des droits humains condamné à 6 mois de servitude pénale principale pour avoir jeté un regard critique sur les actions du gouverneur de province. Enfin, ce rapport rappelle aux députés le rôle, à savoir légiférer et assurer les contrôles de l'action gouvernementale. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Merci Jacques Moukonkole pour tous ces détails. Professeur Trésor Grison Kiakoumbi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du groupe d'intellectuels de la Grande Orientale, ce groupe qui a publié ce rapport ou qui a remis ce rapport lundi 6 octobre au président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Alors, dans ce rapport, vous dites que 99% de la population considère le gouvernement provincial, pense que le gouvernement provincial est inactif. Comment avez-vous obtenu le chiffre de 99% de la population qui juge le gouvernement inactif?
Your correspondent is on another line.
Non. Professeur Kakoumbi.
Allô, madame.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup, madame. Merci. La structure est constituée de chercheurs de différents horizons qui travaillent en synergie dans l'interdisciplinarité. On regarde ça, un échantillon, disons, il fallait définir un cadre méthodologique. Et dans les cadres méthodologiques, il y a ce qu'on appelle les méthodes de recherche et les techniques, justement, d'application. Et là-dessus, il y a eu à la fois des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Et du côté quantitatif, il y a eu ce qu'on appelle des questionnaires d'enquête, qui étaient des questionnaires, d'un côté des questionnaires fermés, et là vous pouvez voir par rapport aux trois rubriques, et des questionnaires ouverts, c'est-à-dire on peut laisser la latitude à des commentaires, et ce qui a permis justement à notre équipe de parcourir. Et à ce niveau-là, l'échantillon qui était consulté dans la méthode quantitative était dans les 5 000, au moins 5 000, parce qu'il y a eu ce qu'on avait utilisé dans l'interview, il y a eu aussi dans l'interview, on a utilisé même des logiciels apportés, notamment des combats collectifs, qui nous ont permis aussi de collecter certaines informations. Mais, et dans les 5 000, en regardant par rapport aux trois rubriques, nous sommes rendus compte que 99% avaient du mal à se retrouver dans ce gouvernement provincial. Voilà pourquoi, madame, pour aider la province, les chercheurs que nous sommes, nous avons fait des propositions, des suggestions, et on a soumis à l'Assemblée provinciale, qui est l'organe délibérant, a fait non seulement d'exploiter notre document, et pourquoi pas en faire usage pour un contrôle parlementaire rigoureux au profit de la population.
Alors, professeur Kakoumbi, en dehors de la perception, quels sont les éléments ou les preuves factuelles qui corroborent l'affirmation selon laquelle les réalisations provinciales sont presque inexistantes et invisibles?
Oui, on peut prendre les infrastructures routières. Prenons seulement dans la ville de Kisangani. Vous pouvez voir, en dehors des chantiers du gouvernement central, la population ne se retrouve pas qu'à la province. Il a été rendu public un document qui disait que le gouvernement provincial aurait débloqué un montant de 700 000 dollars pour 11 kilomètres dans la ville. Jusqu'à présent, nous nous posons des questions si c'est encore dans le rêve ou dans la réalité. Tenez les tronçons à Kisangani pour ceux qui connaissent. Déjà au niveau des Kachetele, de Kirimabaï jusqu'à à référence, je crois bien les herbes commencent à pousser dans la route. Je veux dire dans la route, avec même une possibilité qu'on attrape des gibiers si vraiment on est chasseur. Quand vous prenez de la commune Mangobo, vous pouvez prendre le boulevard Lumumba, parce que quand on parle de Lumumba, c'est un héros national. Donc son boulevard doit être un boulevard qui est pris en compte. Du rond-point stade, vous allez jusqu'à la Sotexi. Madame, même en prenant la moto, ceux qui font cette route ont déjà des problèmes de santé, en commençant par les motards qui prennent la population. Donc, on ne sent pas, selon la population, nous ne sentons pas la visibilité du gouvernement. Mais en dehors de ça, le gouvernement central nous plonge justement dans des chantiers partout. C'est pratiquement partout. Et ce sont les seuls chantiers qui démarre, se poursuit, et certains chantiers sont déjà achevés. Alors, on peut prendre le cas de la route Opala. Comment comprendre que ces travaux ont été déjà lancés? Le gouvernement central a débloqué même l'argent, et que cela revenait, n'est-ce pas, au gouvernement provincial de mettre en œuvre, mais il semble que jusqu'à présent, rien ne se poursuit encore, selon la population. Voilà seulement pour ça. Sur les infrastructures hospitalières, rien n'est fait. Selon la population. Aucun territoire, on a promis des mini-barrages pour l'électricité. La province est dans le noir. L'insécurité. Madame, on tue ici à Kisangani chaque jour. C'est injuste. Aujourd'hui, on parle des problèmes d'atrophie des organes et des organes génitaux. Et je dois vous avouer, madame, comment comprendre? En plein centre-ville, on doit tuer les gens, mais aucune enquête, aucune implication de l'État. Comme si de rien n'était, et ces gens sont là. Nous venons de perdre des médecins qui sont allés pour la cause justement des compatriotes. Rien n'est fait. En cas d'insécurité pour les bandits mais armés, on fait appel à la police. Tantôt, ils n'ont pas de carburant, ou soit ils ont des carburants, mais ce n'est pas toujours suffisant. Tantôt, ils n'ont pas de crédit, d'autres n'avaient pas même des radios, des Motorola pour communiquer, et des forces de déplacement et de ceci. Et grave encore, vous trouvez même certains affamés qui est supposé faire ça à la population de demain.
Et donc, docteur,
les jeunes commencent à s'organiser pour se prendre en charge.
Et donc, selon ces habitants ou cette population que vous avez interrogée, depuis que ce gouvernement provincial est en place, il n'a posé aucun geste en faveur de la population.
Selon la population, rien de palpable, mais jusque-là.
Rien de palpable, mais de petits gestes ont été posés, ça et là, peut-être.
Bon, c'est que la population veut voir, quand on dit petit geste, c'est lequel, parce que la population veut voir ce qui est d'intérêt public. Je vous évoque, la population a besoin de la paix. Quand chaque jour on doit tuer les gens, les mains armées viennent prendre, aujourd'hui c'est tel, le lendemain c'est tel autre. Les autorités ont des gardes, ont garde des corps, ont des policiers qui les sécurisent et les battent plein, madame. C'est ça maintenant le problème de la population. Et aujourd'hui, on trouve, je vous donne les cas. Comment comprendre que dans des territoires, on exploite les minerais avec les permis de recherche? On méprise de la loi. La population se plaint. La société civile dénonce. Et si on regarde ça, c'est la population pense qu'elle est abandonnée au regard, n'est-ce pas, de nos enquêtes.
Alors, vous dénoncez aussi dans ce rapport le non-respect des droits de l'homme, notamment la liberté d'association et la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis, professeur Kakoumbi, ou des cas récents documentés par votre groupe qui illustrent le non-respect de la liberté d'association ou d'expression, par exemple?
Oui, madame, il est vrai que dans un régime démocratique, la Constitution nous garantit la liberté d'expression. Le chef de l'État a tellement insisté sur ce point et qu'il ne revenait à personne de s'afficher contre ça au mépris justement de ce qu'on peut appeler un état des droits. Et après, madame, je peux vous citer, à l'ouverture de la session parlementaire, de jeunes activistes de Lucha et de Filimbi et d'autres de la société civile ont manifesté. Madame, non seulement ces jeunes sont passés au tabac avec une torture dont les images sont là. Et je dois vous avouer, madame, un jeune de nom de Jedi Diamabella a été aux arrêts avec un procès en flagrance condamné à 6 mois. Selon justement les professionnels du droit, les acteurs de la société civile et la population, ce procès n'a pas été équitable et qu'on croit à une mémoire. Madame, je viens maintenant vous annoncer que depuis ce matin, l'un des jeunes qui était tabassé dans ces activités est mort. À la maison, bien sûr, mais la question reste, parce que les réactions commencent à se faire, est-ce que par hasard, ce ne sont pas les coups reçus qui serait à la base de sa mort. De surcroît, un journaliste. Madame, la population s'inquiète parce qu'on ne sait plus s'exprimer. On a reçu le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du gouverneur, qui a fait un communiqué menaçant justement les gens de ne pas. Donc, sans quoi ils seront poursuivis. Maintenant, on commence à se demander. On est dans les problèmes de l'État ou dans les problèmes individuels. Ce qui est vrai, on ne peut pas soutenir comment que des ressources d'autorités, peu importe les responsabilités qu'elles occupent, les autorités ont droit au respect et à la dignité. Mais dans les cas où on dénonce justement une mégestion, dans les cas où on dénonce une conduite peu démocratique dans la gestion de la chose publique, en toute sincérité, on ne méritait pas d'être traité comme le Seigneur en faisait avec les vassaux au Moyen-Âge.
Alors, quelle est la finalité,
professeur, s'inquiète la population.
Professeur, quelle est la finalité de votre rapport? Est-ce que vous cherchez une amélioration de la gestion de la province de la Tchopo ou encore c'est une façon de demander une sanction ou un changement de l'exécutif provincial?
Ce qui est vrai, nous ne sommes pas des décideurs. Les scientifiques sont des éclaireurs de la communauté. Nous sommes comme les coqs du village qui, en chantant, alertent justement le villageois qui est, c'est l'heure d'aller au travail. Donc, nous n'avons pas une décision à prendre, mais on oriente. Ce qui veut dire, devant une déception de la population, on rappelle à ceux à qui la population a donné le pouvoir. C'est-à-dire, les députés, ils ont le pouvoir de la population et la population dit de ne pas se retrouver dans la décision des députés. Ce qui veut dire que ce sont eux qui ont élu le gouverneur, ce sont eux qui sont à la base d'un gouvernement provincial. Est-ce qu'ils peuvent contrôler? C'est comme ça que nous, comme scientifiques, en conclusion, nous avons dit les députés doivent lancer un contrôle parlementaire rigoureux. Donc, comment vous pouvez comprendre ce matin? Il y a une manifestation des jeunes qui réclamaient la libération de Djedidia, se sont retrouvés en face des bandits. Donc on aurait recruté des bandits pour faire face aux jeunes qui manifestaient pacifiquement. Madame, comment vous voulez mettre fin au banditisme quand vous êtes vous-même à la base d'entretenir les mêmes bandits? C'est hyper dramatique.
Merci, professeur.
Ce que vous avez aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça.
Merci, professeur. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir le porte-parole du gouvernement provincial de la Tchopo. Est-ce que monsieur Akomboyo, vous êtes en ligne?
Oui, madame, je suis.
Alors, je rappelle que vous êtes ministre provincial en charge du budget et comme je l'ai dit, porte-parole du gouvernement provincial de la Tchopo. Comment vous réagissez au nom du gouvernement provincial, bien sûr, au profond mécontentement des Tchopolais exprimés dans ce rapport, notamment le chiffre selon lequel 99% de la population considère votre gouvernement comme inactif?
Merci beaucoup, madame. Je suis très heureux de
participer. On a du mal à vous suivre. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Ah, ça crache.
J'espère que vous me captez parfaitement à ce stade.
Ça s'est amélioré. Vous avez la parole.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Je suis pertinemment convaincu qu'au cours de ces débats, nous n'allons pas assister à un théâtre, mais nous allons plutôt avoir le temps d'apporter la lumière qui est recherchée par nous tous. Nous tous, nous avons besoin de cette lumière sur la vérité, cette lumière sur la science et cette lumière sur les faits. Avant tout, je me demande au nom de qui mon co-débatteur aujourd'hui intervient. Parce qu'il n'existe plus la province de la province orientale. Depuis 2015. Alors, il y a eu démembrement. Et cette structure-là n'existe pas. C'est une structure qui n'est ni légitime, une structure qui n'est ni légale. Il s'agit juste d'un groupuscule de moins de 10 personnes que nous avions vu se présenter à l'Assemblée provinciale. Et dans ces groupuscules, il n'y avait qu'un seul, je le dis bien, un seul scientifique qui est un docteur en philosophie, récemment déchu d'un comité de gestion. Donc, pour dire avant tout que cette structure n'a pas ni la légitimité ni la légalité pour parler au nom de notre grand espace. Et en plus de cela, ça me fait très mal de voir qu'ils sont en train de parler au nom de la science. Dans la science, il y a des règles. Dans la science, il y a des principes. Ils nous parlent d'une enquête. Il nous parle des résultats d'une recherche. Mais madame, je peux vous avouer, moi aussi je suis scientifique à la grande université de Kisangani. On est en train de nous présenter un chiffon pour dire qu'il s'agit d'un rapport scientifique. C'est tellement décevant. Pourquoi je l'ai dit, madame? La science obéit à certaines règles. Et à ce qui concerne ce chiffon, je vous dis, nulle part il y a eu d'enquête, ni dans la ville de Kisangani, ni dans la province de la Tchopo. Ce sont des données montées de toutes pièces. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans un travail scientifique, dans un rapport scientifique, en annexe, on a les questionnaires d'enquête. Ça n'existe pas dans les rapports. On a la base des données. Ça n'existe pas. On a les données brutes des analyses. Parce que dans les fonds du travail, il y a plutôt des tableaux qu'on résigne. Il n'y en a pas. Et en plus de ça, qu'est-ce qui me choque davantage de considérer ces chiffons comme étant un rapport scientifique, c'est le fait de confondre des graphiques à des résultats d'analyse. Ça, c'est vraiment une aberration qu'un scientifique ne peut jamais commettre. Pourquoi? Les graphiques ne sont qu'une forme de représentation des données. Ça n'a rien à voir avec les résultats d'une recherche scientifique. Dans la recherche scientifique, il y a des méthodes d'analyse. Mais dans ces chiffons, madame, on trace des graphiques sur base des données totalement biaisées et on pense qu'à partir de là, ils peuvent légitimer leur fiction, leur haine ou soit leur recherche de la santé politique afin de pouvoir donner à cela un caractère scientifique. C'est faux et archi faux. Il n'y a aucune analyse scientifique. Dans ces résultats-là, nulle part il y a un test scientifique pour essayer, par exemple, de comparer les moyennes pour arriver à une conclusion. Ni les tests, ni les petits carrés, il n'y a pas d'analyse.
Mais le professeur Kakoumbi, je ne sais pas si vous l'avez suivi en début d'émission, il dit qu'ils ont interrogé 5000 personnes disséminées à travers les 7 territoires de la province de la Tchopo.
Moi, je vous dis absolument que c'est faux. C'est très faux parce que moi-même, je suis en possession de ces rapports. Et je vous avoue que je suis très déçu. Et ce qui me fait très mal, c'est de jeter de l'opprobre sur la communauté scientifique de la grande province orientale de Mamré. Comment ils peuvent considérer un chiffon comme étant l'émanation des scientifiques de ces grands espaces? Je pense que c'est jeter du discrédit sur les scientifiques de notre espace.
Pourquoi? Alors, non, vous rejetez tout, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole. S'il vous plaît, monsieur le porte-parole, on va s'écouter. Et donc, vous rejetez catégoriquement tout ce qui a été dit dans ce rapport. Pour vous, le gouvernement provincial n'est pas inactif. Il travaille.
Madame, je l'ai dit et je le répète, d'abord cette structure n'a pas qualité et en plus les résultats sont erronés.
Alors, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit, monsieur le porte-parole. Monsieur le porte-parole, vous l'avez déjà dit. S'il vous plaît, le rapport affirme que seules les réalisations visibles sont financées par le gouvernement central. Est-ce que vous pouvez nous détailler, par exemple, 3 projets majeurs financés par le budget provincial au cours des 12 derniers mois? Et voilà, comme vous rejetez ce rapport, vous estimez que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous présenter juste 3 projets, nous détailler 3 projets majeurs financés par le gouvernement provincial?
Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à cette question, j'aimerais au préalable, parce que je vais revenir sur tous les éléments que mon co-débatteur a évoqué, et j'aimerais d'abord faire comprendre les contextes dans lesquels nous sommes. Ça, c'est d'abord un préalable que nous ne devrions pas ignorer ou mettre de côté. La province de la Tchopo aujourd'hui est en train de traverser les moments les plus sombres sur le plan sécuritaire. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes agressé par le Rwanda. Et le Rwanda se trouve à la porte de la province de la Tchopo. Nous sommes une province voisine de toutes ces provinces qui sont aujourd'hui sous occupation de l'ennemi. Et avec l'invasion de l'ennemi, nous avions enregistré la fuite, par exemple, de certains militaires qui se sont mal comportés. On a eu même des intrus qui sont venus à Kisangani, des réfugiés. Il y a des personnes incontrôlées et c'est à partir du mois de février. Lorsqu'il y a eu l'invasion rwandaise et puis il y a eu des réfugiés qui venaient vers la province de la Tchopo, que nous avions commencé à enregistrer d'abord le problème de l'insécurité. Il faut d'abord qu'on connaisse la genèse. Et la province de la Tchopo, en ce qui concerne son économie, dépend principalement des provinces de l'est du pays. Avec le marasme que cette insécurité entraîne, ça peut toutefois fragiliser notre économie. Mais en dépit de ce contexte
qui n'est pas favorable. Le gouvernement provincial est en train de fournir suffisamment d'efforts sous le leadership de son excellence, monsieur le gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga. On a parlé, dans leur rapport, il parle de la gouvernance, il parle des infrastructures, il parle également des droits de l'homme. Je vais réagir par rapport à ces différents points. Je commence premièrement par les infrastructures. À ce qui concerne les infrastructures, en suivant le docteur qui est mon co-débatteur aujourd'hui,
le professeur Kakoumbi,
il devrait se limiter simplement à la ville de Kisangani. Mais moi, j'aimerais que le professeur Kakoumbi se dirige au niveau des Simesta pour demander aux habitants de Simesta s'ils ne sont pas satisfaits de ce que fait le gouvernement provincial. Il peut aller sur la 19e avenue Kabondo, il peut aller sur la 14e avenue Kabondo, il peut parcourir les quartiers Motumbe, il peut parcourir Cité Paradis, ils vont voir ce que le gouvernement provincial est en train de réaliser comme infrastructure au niveau de la ville. Il parle en même temps des infrastructures. Pour le moment, madame, je vous dis que nous sommes en train d'ériger une mini centrale hydroélectrique au niveau des Banalia, dans un territoire. C'est déjà un projet pilote et nous allons dupliquer l'expérience dans les autres territoires de la province. À ce moment où je vous parle, il y a une centrale photovoltaïque qui est en pleine construction ici vers Motumbe. Ça, c'est, je peux me limiter juste là pour les infrastructures. Aujourd'hui, la ville de Kisangani est en train d'être reliée avec ce territoire. C'est grâce aux efforts du gouvernement provincial. Et sans ignorer, on ne doit pas rejeter également l'accompagnement du gouvernement central parce que vous savez que nous constituons un État. Nous sommes un État. Et le lobby de province qui a rencontré la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous a promis lors des élections d'accomplir des grandes choses dans notre ville. On est également en train de vivre une transformation totale de la ville de Kisangani, mais aussi de la province de la Tchopo. Ça, on doit reconnaître ça. Et nous reconnaissons les efforts du gouvernement central. Nous, on ne s'approprie pas ces efforts comme si ils étaient l'émanation donc exclusive du gouvernement provincial. Il y a des actions du gouvernement provincial, il y a des actions du gouvernement central, mais ces actions du gouvernement central sont appartiennent à la province. Et c'est le gouvernement de la province qui conclut, qui signe des contrats avec Besseco, qui se trouve sous l'égide du ministre national de finances, Doudou Famba. Et tout ça, c'est toujours dans l'harmonie, dans le sens de complémentarité entre le gouvernement central et le gouvernement provincial.
Alors, monsieur le porte-parole, est-ce qu'on peut parler, vous avez donné des exemples par rapport aux infrastructures. Alors, à l'insécurité, vous avez suivi le professeur Kakoumbi qui se plaint du fait que tous les jours, à Kisangani, on tue, on cambriole. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour faire face à l'insécurité dont dénonce la population de Kisangani.
Merci beaucoup, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord rappeler...
C'est un débat, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole, vous n'êtes pas seul. Essayez de vous résumer, parce qu'on doit donner la parole à notre analyste qui est avec nous dans ce studio.
Merci beaucoup. Le gouverneur en entrant en fonction, il a trouvé plusieurs conflits dans notre province. Et il a commencé par là. Il y avait des tueries chaque jour entre les communautés. Et grâce à son leadership aujourd'hui, mais aussi l'implication du gouvernement central, parce que la question sécuritaire est une affaire de tous, ça implique qu'on ne peut travailler sur la sécurité sans pour autant associer également le gouvernement central. Aujourd'hui, ces conflits communautaires sont résolus. Et j'ai parlé ici de la genèse de ce que nous vivons aujourd'hui comme insécurité. Le point de départ de cette insécurité, c'est l'agression rwandaise. L'agression nous imposée par les Rwandais. C'est à partir de là qu'il y a eu des problèmes. Mais madame, laissez-moi vous avouer, dans la province de la Tchopo, au moment où je vous parle, il n'y a rien qui consomme le budget provincial plus que les dépenses en matière de sécurité. Et je vous avoue que chaque jour, jour et nuit, les forces de l'ordre, les différents services spécialisés tournent toujours autour de notre gouverneur des provinces pour réfléchir et agir. Et chaque jour, je vous informe, il y a des patrouilles mixtes entre la police, l'armée, il y a des opérations de bouclage qui s'y font, il y a des bandits qu'on arrête, il y a ces cambrioleurs, ces malfrats qu'on arrête au quotidien. Il y a même des mécanismes que nous avions mis en place même pour promouvoir également la sécurité participative. Parce qu'il est également important que la population participe à ces processus. Il y a certains quartiers là où il y a des mécanismes de sécurité participative ont été lancés et ça marche bien, et puis il y a du calme. Et pour le moment, par exemple, je vous parle, depuis, je peux dire, voilà, nous tendons vers une semaine, nous sommes en paix dans la ville de Kisangani, il n'y a plus ces calmes pendant la nuit. C'est une façon de dire que l'insécurité est là, on est en train de travailler en plein régime, pour que nous puissions contenir cette insécurité. Et vous allez voir que plus les jours avancent, plus ces cas d'insécurité diminuent et la situation est en train de revenir au calme dans les chefs de notre population.
Merci, monsieur le porte-parole. On va vous redonner la parole, s'il vous plaît. Vous allez évoquer l'aspect droit de l'homme. Polydor Tanguely, vous êtes expert en matière de travail, analyste indépendant, comment vous analysez la portée et la crédibilité du rapport du groupe d'intellectuels, notamment ce chiffre alarmant, 99% de mécontentement. Est-ce que ça représente un réel indicateur de la crise de gouvernance dans la Tchopo?
Merci pour l'invitation et surtout pour belle opportunité que vous m'offrez de parler des Kisangani, une ville qui me tient à cœur. Au fait, puisque vous l'avez dit, le porte-parole du gouvernement a évoqué la question de la légitimité et de la légalité. Il est mieux placé puisqu'il est autorité étatique locale. Hein, il connaît la nature de ceux qui ont mené la recherche. Il peut se prononcer. Mais je rencontre ici la préoccupation qui porte sur la crédibilité de la démarche. Au fait, ce ne sont pas les titres scientifiques qui accordent un crédit à ce qui est fait. C'est la qualité du produit qui accorde la crédibilité à ce qui est fait. Parlons-en. Lorsque vous lisez ces rapports, vous constaterez avec moi que le contenu est moins conciliant. Il est plus négatif et on constate qu'il y a un manque d'équilibre dans la constatation de faits. Le regard est plus négatif que positif. Et ça ne donne pas de crédit, pour rencontrer votre question, ça ne donne pas de crédit à l'action menée. Aussi, pour question de crédibilité, nous allons questionner la sociométrie de ceux qui ont fait ce travail. Qui sont-ils? Le groupe est composé de qui? Dis-moi avec qui tu as travaillé, je me prononcerai sur la qualité du produit que tu as mis à notre portée. La constitution de ces groupes-là. Et plus tard même, on peut se poser la question sur la segmentation et même la stratification de ceux qui ont travaillé comme enquêteurs et de ceux qui ont fait l'objet de l'enquête, notamment les 5000 personnes. Et lorsqu'on lit les rapports, on n'essaie pas faire ressortir tout ça. Et ça pose un problème de crédibilité. Il est facile de dire que 99% des personnes ont dit ceci, mais il faut le prouver. Il faut le prouver. Puisqu'au fait, en recherche scientifique, je partage ce que le porte-parole du gouvernement a dit, il y a ce qu'on appelle le biais d'échantillonnage. Lorsque vous avez procédé à un mauvais échantillonnage, les résultats qui vont en découler, vont être aussi biaisés. Alors, c'est tous ces éléments, ces questionnements-là qui nous poussent aujourd'hui à dire, mais est-ce que c'est crédible? On se pose la question de savoir si vraiment, le gouvernement provincial est constitué des monstres, hein, qui ne peuvent rien faire de bon, et que tous ceux qui ont été enquêtés, ceux qui ont constitué l'échantillon, sont tellement aveugles qu'ils n'ont rien vu de bon. D'où, je pense qu'ici, le document qui a été produit aurait plus renseigné sur des questions de crédibilité, d'échantillonnage, ainsi de suite. Cela ne me pousse pas à dire que ce qui est déclaré est largement faux. Mais simplement, lorsqu'on n'a pas pris des précautions liées au biais d'échantillonnage, liées au professionnalisme et à tout ça, le crédit qu'on peut donner au document est un crédit discutable. Mais hélas, je me prononce aussi sur le contenu de ce qui a été apporté. Je me suis dit, est-ce que ce rapport ne vient pas de Mbujimayi? Est-ce que ce rapport ne vient pas de Talémi? Est-ce que ce rapport ne vient pas... Puisqu'en fait, ce sont des problèmes structurels. Ce sont des problèmes structurels qui ont des connexions très larges, dont les conséquences, et qui sont peut-être des conséquences d'ordre historique, d'ordre conjoncturel, lié à la réalité du pays. Et voilà qu'il a été évoqué ici la problématique de l'insécurité de l'agression du pays et une province voisine qui subit les conséquences. Donc, ce sont des problèmes généraux, hein, qui sont évoqués de manière globale, hein, bien qu'ils font partie de la réalité dans beaucoup de nos milliers, beaucoup de nos provinces. Et là, je pensais vraiment placer un mot sur le document. Mais aussi, puisqu'il s'agit de chercheurs, il s'agit de personnes qui ont de la lumière, qui ont une certaine longueur d'avance sur les autres, je pense que le document devait être porteur de solutions.
Ils ont fait les constats, ils ont fait des propositions.
Bon, je les ai lus, je n'en ai pas vu d'aussi contributive. Ils ont fait les constats, il est négatif. Nous aurions bien voulu voir des solutions pratiques, voyez. Et c'est la question c'est la reproche qu'on fait à beaucoup d'acteurs de la société civile. Ils restent plus idéalistes dans la perception des choses et même dans les recommandations. J'attendrai quelque chose de très pratique. Par exemple, lorsqu'il y a une route où il y a des herbes, il y a des souris, tout ça qui sont dedans, quelle solution pratique vous donnez à ça? Donc, j'aurais bien suggéré à cette équipe la démarche constat, action, et voyez là où il débouche. Il débouche au contrôle parlementaire. Quelle valeur le contrôle parlementaire a encore en République démocratique du Congo? Ça fait que l'action elle-même se traduit à un saupoudrage. Ça, c'est le regard critique que je jette sur le document lui-même. Il mérite des améliorations, hein, en termes de contribution de ma part.
Alors, on va regarder.
Je voulais aborder maintenant le nœud du problème.
Allez-y, rapidement.
Puisque là, lorsque vous suivez le porte-parole du gouvernement, je l'appelle à une certaine modestie, hein, à une certaine modestie pour dire, pour accepter effectivement, aujourd'hui, le pire du travail à faire, c'est d'être gouverneur de province. Comment on devient gouverneur de province? Dis-moi, comment tu es devenu gouverneur de province? Je te dirai pourquoi tu produis ces résultats qui sont médiocres. Le parrainage. On devient gouverneur de province par un parrainage de Kinshasa. Et ça tue nos provinces. Nous ne sommes pas surpris de voir ces résultats, bien qu'une crédibilité scientifique, le problème de crédibilité scientifique se pose. Dis-moi comment tu es devenu gouverneur. Dis-moi qui t'ont voté et comment ils t'ont voté. Tu t'es mis dans un engrenage de redevabilité presque maximale. À 70%, ce qui fait que le 30% passe inaperçu. Donc, et cela étant, j'appelle quand même le porte-parole du gouvernement une certaine modestie, puisqu'en fait, ce sont des faits vrais, mais qui sont structuraux. sont les faits vrais qui sont structurants que les gens vivent au quotidien et qu'il faut un langage beaucoup plus conciliant, beaucoup plus prometteur, surtout qu'on est en face de médias. Je suis scandalisé d'apprendre qu'il y a une transformation totale de la province de la Tchopo, tel que l'a dit le porte-parole du gouvernement. Il y a certes des difficultés, il y a certes des réalisations, mais qui sont en disproportion par rapport au discours de campagne, au discours des élections. Sinon, politique qu'il en est, on peut dire qu'on passe aux médias pour faire de la démagogie.
On va ouvrir le standard pour écouter ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler de partout. Direction Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur qui est en ligne.
C'est Apollinaire Tchomba Lumbule depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Les rapports du groupe d'intellectuels de la Grande Orientale révèlent une profonde crise de gouvernance dans la province de la Tchopo, marquée par l'inaction du gouvernement provincial, l'insécurité, les conflits fonciers et le non-respect des droits fondamentaux. Cette situation traduit une rupture de confiance entre la population et ses dirigeants, ainsi qu'un affaiblissement de l'autorité provinciale. Et cela soulève une interrogation. Cette crise découle-t-elle de l'incompétence des autorités provinciales ou d'un système trop centralisé qui empêche la véritable décentralisation?
Alors, professeur, très brièvement, comment vous répondez à cet auditeur? Je sais que vous allez vouloir réagir aussi aux propos du porte-parole du gouvernement. Je vous demande d'être vraiment concis parce qu'on il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Bon, je ne suis pas surpris par la théâtralité de notre ministre porte-parole du gouvernement qui est venu jouer son rôle. Et je l'ai accueilli en premier graduat. Hein. En premier graduat, je l'ai appris la logique et le sophisme. Et dans le sophisme, on n'utilise pas contre les maîtres. La preuve est que quand vous m'avez suivi ici, vous n'avez suivi aucune fois. Il a dit que ce que j'ai dit était faux. Quand je parlais de quand c'était jusque-là, rien. Mais quand on commence à vous envoyer ailleurs pour voir, ok. Et tu vois, il ne sait plus se verser à des attaques personnelles. Quand il parle de légitimité, de l'égalité, je suis curieux que lui, député, élu de cette ville, il interdit à la population de s'adresser aux députés. Et qu'on n'a pas la légitimité, on n'a pas la légalité. Quel est ce texte qui nous interdit? S'agissant du côté scientificité, je ne peux pas comprendre quand même, mais que d'ailleurs, il feint de m'appeler docteur. Non, je suis son maître. Je suis professeur d'une foule. Et qui est du côté scientifique, je souhaite plutôt qu'on parle autrement. Quand on doit parcourir les contenus des réactions ici, je suis quand même dans le regret. Il appelle chiffon. Je comprends qu'il fait le sophisme, il fait la politique. Mais c'est un garçon brillant. C'est une vérité, je ne me verse pas dans ce qu'il voulait. Je salue, je vis juste un. Non, non. Madame, il s'agit des affaires de l'État. Les hommes d'État doivent avoir des conduites respectables, doivent avoir des respects des autres. Vous voyez comment on nous traite quand on parle de la vérité. Lui là, c'est mon jeune frère. Et vous voyez comment devant la presse, il choisit délibérément de me manquer du respect. Et pourtant, après qu'il a enchaîné avec lui, c'est mon jeune frère. Donc une façon de vous dire, on fait le théâtre. La population, quand on parle de réalisations sur le terrain, non, la population s'est plainte. Et pour dire, un habitant de Kisangani vient d'appeler madame, monsieur Apollinaire vient d'appeler. Monsieur Apollinaire vient de vous démontrer justement la réalité, les problèmes d'insécurité. On n'a pas remis en cause. Notre problème, c'est que nous sommes conscients que non, le pays est dans une situation dramatique. Mais ce qui est vrai, on doit avoir des avancées. Je dois vous avouer que la Tchopo regorge des hommes et des femmes de haute facture de services de sécurité. Ce sont des gens dignes et braves. En dehors de quelques individus isolés, indisciplinés peut-être. Mais ils doivent être équipés, appuyés à la hauteur de la gravité de la provocation de l'insécurité. C'est ça ce que le peuple attend vivre en paix. Le papa ne se plaint pas de s'occuper de sa famille. Donc on ne peut pas comprendre qu'un porte-parole vienne dire ici que non, la sécurité c'est l'affaire de tous. Oui, c'est l'affaire de tous, mais un armé, un peuple paisible ne peut pas l'abattre. C'est anormal. Ce matin, on a registré des morts à Kilanga ici, commune de Sangani. Justice populaire. Qu'est-ce justement le gouvernement progressiste?
Alors, professeur, donc, cette solution.
Je vais encore vous répéter.
Cette solution, professeur, répondez s'il vous plaît à la préoccupation d'Apollinaire qui a appelé. Cette situation découle-t-elle de l'incompétence des autorités provinciales ou d'un système trop centralisé qui empêche la véritable décentralisation?
C'est comme ça. Et dans le rapport, je suis quand même curieux que notre frère, l'expert, il a préféré parler en général que de lire les documents et de répondre. Heureusement, vous l'avez rappelé quand même que non, il y avait des propositions. J'ai lu les documents. Nous avons suggéré dans certains points, dans le premier point, sur la gouvernance, la promotion d'une gouvernance locale et participative. Il faut qu'il y ait une gouvernance participative. Il n'y a pas de traçabilité de ça. La transparence budgétaire, la gestion responsable des ressources. Est-ce que le porte-parole du gouvernement, c'est un élu ici, il n'a pas voté le gouverneur. Il était le premier qui a insulté le gouverneur d'abruti une fois élu. Et pour le punir, on l'a mis porte-parole pour voir maintenant s'il peut continuer à insulter encore le gouverneur. Je ne préfère pas jouer son jeu. Nous avons l'amélioration des services sociaux de base. Comment comprendre les agents de régie qui cherchent l'argent? Ils ne sont pas payés. Comment comprendre les gens qui sont au gouvernement qui ne sont pas toujours payés? Et tout ça, on va dire parce qu'il y a la guerre à l'Est. L'argent entre. Si l'argent entre, ça part où à la fin? Je vous répète aujourd'hui.
Professeur, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas, professeur. Vous ne répondez pas à la question, professeur Kakoumbi. Vous ne répondez pas à la question. Elle est claire. Cette situation découle-t-elle de l'incompétence des autorités provinciales ou d'un système centralisé qui empêche la véritable décentralisation en une phrase?
Oui, si je dois m'en tenir au rapport des enquêtes que nous avons menées, vous allez comprendre que non, la population pense qu'il y a un problème de leadership et qu'un effort de leadership doit être fait pour s'améliorer. Et c'est leadership, vous savez quoi? Parce qu'on démontre justement une insuffisance au regard de certaines situations et qu'on a proposé pour maintenant améliorer comment il faut être transparent, collaborer et aussi suivre le budget conformément à l'édit qui a été voté pour l'année 2025, comme on peut avoir pour 2026.
Merci professeur. On va prendre ce deuxième auditeur très rapidement qui nous appelle Dissangui, toujours dans la province de la Tchopo.
Gato Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Les rapports du groupe d'intellectuels de la Grande Orientale traduisent fidèlement la réalité vécue par les habitants de la Tchopo. Depuis le passage des 11 à 26 provinces, la gestion provinciale s'est dégradée, marquée par des gouverneurs plus affairistes que serviteurs du peuple. La population privée des services sociaux de base assiste impuissante à l'injustice, l'intolérance et à la mauvaise gestion. Les retours à une politique de gestion par des non-originaires pourraient, selon certaines opinions, ramener une certaine impartialité. En outre, la tendance des dirigeants à manipuler députés, jeunes et autres couches sociales pour se maintenir au pouvoir fragilise la démocratie locale. Ces rapports mettent ainsi en lumière un cri de détresse d'une population abandonnée à son triste sort.
Cri de détresse d'une population abandonnée à son triste sort. Monsieur Akombroyo, brève réaction.
Oh, c'est monsieur Tandia Akombo. Le nom c'est Tandia Akombo, c'est le poste nom.
Oui, monsieur Tandia, allez-y.
Merci beaucoup. Alors, j'ai très bien suivi cela qui vient de me précéder. Et avant tout, je tiens ici à préciser au professeur Grison Kakoumbi, qui m'a bien sûr accueilli à l'université, que je suis respectueux dans mes propos. Mais quand je suis intervenu, quand on parle de la science, il faut toujours rester rigoureux. Quand nous parlons des procédés scientifiques, si on était dans un débat politique, je n'allais pas être aussi rigoureux. Mais quand ils ont apporté leurs revendications avec une en disant que c'était une revendication des scientifiques, là je devais être très rigoureux par rapport à tout ce que j'ai à apprendre comme méthodologie scientifique. Je vais rapidement revenir sur certains éléments.
Si vous pouvez répondre, répondre à la préoccupation de l'auditeur et donner votre réaction sur le non-respect des droits de l'homme dans la province de la Tchopout. Très brièvement, hein, on n'a plus beaucoup de temps.
Merci beaucoup. Quand je suis, l'intervenant a essayé d'évoquer un problème qui semble être qu'il estime être un problème pérenne depuis l'existence de la province de la Tchopo jusqu'à ce jour. Il fustige le fait que tous les gouverneurs qui se succèdent n'arrivent pas toujours à relever les défis du progrès. Mais moi je tiens par ici à informer gouverneur de province Colonel Le Nouvelia depuis qu'il est au pouvoir, c'est exactement une année et quelques mois. Alors, pendant ces temps, ce qu'il a eu à réaliser à la tête de la province de la Tchopo, c'est largement supérieur par rapport à tous ses prédécesseurs. On peut même dire, depuis que la province de la Tchopo existe, la transformation qu'elle a reçue, qu'elle a subie pendant ces premières années déjà, ces transformations sont déjà à saluer. Parce qu'à ce qui concerne, par exemple, la gouvernance aujourd'hui, le gouverneur de la province a essayé d'améliorer les conditions de travail des différents acteurs du secteur public. Nous voyons les conditions de travail des ministres qui sont dotés en équipement pour travailler, en véhicule pour les déplacements. Je prends par exemple l'Assemblée provinciale. Dans moins d'une année, il a doublé les subsides de l'Assemblée provinciale pour permettre à cette institution d'avoir suffisamment payer son personnel et pour fonctionner. Tout ça, ce sont des efforts.
Alors, on peut parler des droits de l'homme, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole. La réalisation me signale qu'on n'a vraiment plus de temps. Alors, vous avez arrêté des activistes, des mouvements citoyens, parce qu'ils ont dénoncé la mauvaise gestion de la province. Très brièvement.
Oui, merci. Avant tout, nous avions vu les images où les activistes de la lucha qui étaient tabassés par la police. Ce n'étaient pas les policiers qui dépendaient du gouvernement provincial. C'était au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils sont venus perturber la plénière et ce sont les policiers affectés à l'Assemblée provinciale qui ne dépendent pas du gouvernement provincial qui se sont appris à ces militants. Donc ça n'a rien à voir avec le gouvernement provincial. Et puis ça me fait très mal, ces jeunes qui venaient de mourir aujourd'hui, c'est un ami avec qui nous avions évolué ensemble. Mais il n'était ni de près ni de loin présent aux récentes activités des militants dans la ville de Kisangani. Il avait un problème de santé connu par tous. Et les professeurs Grison liaient sa mort avec tout ce qui s'est passé récemment. Moi, ça me fait très mal. Je trouve que c'est vraiment une façon de cracher sous la mémoire de ces jeunes qui méritent beaucoup d'hommages de notre part. Vraiment, ce n'est pas normal qu'on puisse faire une déclaration aussi fallacieuse. En ce qui concerne l'arrestation de Jedidia, c'est non simplement mon frère, c'est aussi mon ami avec qui nous avons œuvré dans les mouvements citoyens. Mais je tiens à le dire ici que toute la communauté internationale, la communauté nationale et tchopolaise l'écoute. Le gouvernement provincial ou encore le gouverneur de province de la Tchopo ne sont ni de près ni de loin liés à l'arrestation de Jedidia. Son arrestation est la conséquence de la dénonciation d'un citoyen ordinaire qui a vu l'image, la notoriété de son excellence, monsieur le gouverneur de province, être salie par des invectives sur le plan des réseaux sociaux. Et il s'est permis d'aller dénoncer au niveau du parquet général. Et le parquet général, agissant de la plénitude de son indépendance, a pu orienter ses dossiers vers le juge naturel de M. Jedidia. Et c'est par là qu'il a été jugé et aujourd'hui il est condamné.
Et donc ça n'a rien à voir avec le gouverneur. Merci.
Alors, on n'a rien à voir avec le gouvernement.
Merci beaucoup. S'il vous plaît.
Est pleinement
déterminé pour défendre les droits fondamentaux. Et la ville de Kisangani, c'est parmi les villes les plus démocratiques. Et même à ce moment, il y a ceux-là qui disent n'importe quoi, qui critiquent, mais ils sont là. Les gouverneurs s'en fichent totalement et ils se concentrent sur le travail afin que...
Merci beaucoup, Monsieur Tandia. On va prendre le dernier auditeur très, très rapidement. Ça sera pour vous, Polydor Tangeli.
Junior Bompongo depuis la ville de Kinshasa. À mon humble avis, je pense que les rapports sur la Tchopo, comme dans d'autres provinces de notre pays, posent un vrai dilemme. Faut-il réinventer la décentralisation ou renforcer les mécanismes de gouvernance existants? Je crois que la question centrale demeure. Comment permettre aux institutions provinciales de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social. Sans transparence, ni contrôle et participation citoyenne, le mécontentement persistera et continuera de freiner toute prospérité provinciale.
Réaction, et puis vous allez conclure aussi, Polydor.
Bon, ce qui est vrai, nous avons opté pour la décentralisation, mais aujourd'hui, la concentration, les stigmates de la concentration sont encore visibles. Hein. Il y a cet effort-là à fournir, surtout que les acteurs de la décentralisation au niveau provincial et local ont fait preuve d'immaturité ou de faible appropriation de la décentralisation. Ils ont maintenu un esprit centriste. C'est comme ça que j'ai évoqué le parrainage au niveau du gouvernement central. Beaucoup d'argent qui devait servir à la province est en train de venir au niveau du gouvernement central. Donc il faut repenser même les modes électoraux des gouverneurs. Ce sont des choses à redire. Ça fera l'objet de toute une émission et des recherches scientifiques à ces propos. Puisqu'il fallait conclure, je n'ai plus assez de minutes. Au fait, c'est une interpellation à la société civile. Je prie vraiment que la société civile soit une société civile pragmatique et professionnelle. Le professeur me dira que je lui ai dit qu'il est général. Oui, quand vous donnez une recommandation, améliorer la gouvernance, c'est vague. Donner des recommandations avec des indicateurs chiffrés, quantifiés, qui permettent un suivi et une évaluation à court et à moyen terme.
Merci. Merci Polydor, je suis vraiment...
Voilà, j'avais encore à beaucoup dire.
Je sais que j'avais beaucoup de choses à dire, je suis vraiment désolée, on n'a plus beaucoup de temps. Professeur, vous avez 30 secondes, hein, 30 secondes, je dis, pour conclure.
Oui, vous venez vous-même de faire un tri des auditeurs. Et tous ces auditeurs, en parlant de la Tchopo, étant dans la Tchopo, ont confirmé le rapport. Je veux que les porte-parole du gouvernement et tous les autres... Ça, c'est la différence entre ma personne et la situation de la population. Là où il y a à corriger, il faut corriger.
Merci.
Au lieu d'imaginer des poursuites personnelles, arranger, sinon qu'ils fassent la même enquête avec les mêmes échantillons, qu'on voit s'il y aura un autre résultat.
Merci, professeur. Monsieur Tandia, votre conclusion.
Merci beaucoup. En conclusion, je tiens à faire comprendre à tout le monde, même l'expert qui était là, l'a très bien compris, que ce rapport n'est pas une conclusion scientifique, c'est tout simplement un habillage fallacieux destiné à se faire une santé politique. Mais aujourd'hui, nous sommes bien conscients qu'il y a des défis à relever. Et ces défis sont en train d'être relevés.
Merci.
Le gouverneur de province est là depuis une année. À ce qui concerne la sécurité, il y a des efforts qui sont conjugués.
Vous l'avez déjà dit. Merci, Monsieur Tandia. Désolé. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Restez branchés sur la fréquence de la paix.